BW. Droits et libertés.
Rentrer en Syrie, oui, beaucoup de Syriens qui ont fui la guerre aimeraient bien retrouver leur quartier, leur maison. Mais dans la réalité, ce retour s'annonce encore très compliqué pour la plupart d'entre eux. Nous irons à Alep, à Damas et même au Liban écouter le témoignage de Syriens concernés. Et puis imaginez des artistes africains produisant une chanson larmoyante pour appeler à des dons en faveur des Norvégiens. C'est un gag lancé par une ONG mais qui prête à réfléchir sur les formes de la coopération Nord-Sud. Sandrine Blanchard au micro. Bonjour à tous. La victoire militaire sur le groupe État islamique semble acquise en Syrie. Pourtant, de nombreux Syriens qui ont fui leur pays ont peur de rentrer. De grandes parties de la Syrie ont été dévastées. Le régime al-Assad est toujours en place. Et à certains endroits, il y a toujours des combats. Iman est de retour chez elle, entre ses quatre murs. Après avoir passé plusieurs années hébergée chez des amis, elle est contente de rentrer à la maison, ou plus exactement, dans ce qu'il reste de sa maison. Iman habite de nouveau à Qaldiyeh, un quartier de la ville de Homs, qui se trouve presque entièrement en ruine. Dans le mur de la maison d'Iman, on peut voir un gros trou.
Je vais bien, malgré les destructions. J'espère que les autres gens vont pouvoir rentrer aussi chez eux. C'est tout ce que je souhaite, que tout le monde puisse retrouver sa maison.
Pas sûr que son vœu puisse être exaucé bientôt, sa fille Mouna joue dans les décombres. À part cette petite étincelle de vie, Qaldiyeh a tout d'une ville fantôme. La reconstruction n'a pas encore commencé, les habitants ont fui la guerre. Depuis 3 ans à peu près, les troupes gouvernementales ont repris le contrôle de la ville, mais seules 2 familles sont rentrées d'exil pour l'instant, dont celle d'Iman. Son mari est fonctionnaire et son salaire permet à la famille de se maintenir à flot.
Nous sommes rentrés parce que c'est notre maison, c'est tout. Y a-t-il rien de plus beau que sa propre maison? Avant, ici, on avait déjà de l'électricité et de l'eau courante. Alors quand l'État les a rétablis, on est revenu.
Alors, à signaler quand même, un agent du ministère de l'Information écoute tout ce que nous raconte Iman. Les journalistes étrangers sont obligés de se faire accompagner par les services de renseignement quand ils viennent en Syrie, peu importe où ils travaillent. À Djobar, banlieue de Damas, Spiro a perdu sa maison de famille et tous ses biens. Désespéré, il a fui en 2015 pour l'Autriche. Ce jeune photographe n'a pas réussi à faire venir sa mère en Europe, alors il est retourné en Syrie au bout de 6 mois. Il a eu de la chance dans son malheur, son ancien patron l'a repris. Spiro a quand même du mal à boucler ses fins de mois.
Le plus dur pour les jeunes en Syrie, c'est de se loger. Et après, c'est de mener une vie décente. Je ne parle pas de luxe, genre Miami Beach, hein. Simplement une vie décente de pouvoir s'habiller, manger et avoir un peu de réserve pour voir venir les 5 ou 6 mois qui suivent.
Le père de Spiro est décédé. Le jeune homme de 28 ans s'est donc retrouvé catapulté chef de famille, ce qui lui a permis d'échapper au service militaire. A contrario, beaucoup d'autres jeunes Syriens qui ont fui à l'étranger ont peur d'être engagés dans les rangs de l'armée s'ils reviennent au pays. Et encore plus, ont peur d'autres dangers qui pourraient les menacer. Dans la province d'Idlib, c'est dans le nord-ouest du pays, les combats ont repris. L'ONG Médico International rapporte le cas de 2 Syriens qui étaient rentrés volontairement au pays après un exil en Allemagne et qui, à leur arrivée en Syrie, ont été interrogés par les services de l'État et ont disparu sans laisser de traces. Le gouvernement syrien avait prévenu plusieurs fois qu'il considérait les Syriens qui ont fui comme des traîtres à la patrie. En tout, les Nations Unies ont enregistré plus de 5,5 millions de Syriens qui sont partis, pour la plupart vers la Turquie ou le Liban voisin. Abu Daham en fait partie. Depuis 6 ans maintenant, ce père de famille originaire d'Alep vit dans un camp de réfugiés improvisé dans la plaine de Bekaa, c'est au Liban, avec sa femme, ses enfants et leurs petits-enfants dans une tente plantée au bord de la route.
Ce qui nous empêche de rentrer chez nous, ce sont les milices, l'État islamique, les Iraniens, les Afghans et tous ces groupes armés qui viennent de partout pour nous tuer dans notre propre pays. Et le régime de Bachar est le pire de tous. Nous, nous voulons rentrer, mais nous ne faisons pas confiance au régime. On nous dit toujours qu'on sera les bienvenus, mais si on y croit et qu'on rentre chez soi, on se retrouve en prison le lendemain et le surlendemain, on est mort.
Alors imaginez des stars de la musique africaine qui se mettent ensemble pour enregistrer un disque. La musique est sirupeuse, vous l'entendez. Le texte ressemble à de la guimauve, il dégouline de bons sentiments. Les fonds récoltés par les concerts et les ventes de la chanson seront reversés, c'est promis, à la Norvège. Les artistes appellent en effet les Africains à se mobiliser pour pouvoir acheter des radiateurs aux Norvégiens qui ont froid. Image dramatique de Scandinaves gelés à l'appui. Alors, ils font un clip et l'un des artistes appelle les Africains à voir ces visages tristes et plongés dans le dénuement. Le froid, c'est aussi grave que la pauvreté, dit l'homme. Le froid aussi tue. Vous l'aurez compris, il s'agit d'une parodie pour dénoncer les bons sentiments des artistes occidentaux, américains et européens surtout, qui brandissent régulièrement les clichés habituels sur l'Afrique. La guerre, la misère, les épidémies, pour mettre en avant leur immense générosité en appelant aux dons pour les pauvres Africains qui, eux, sont réduits à l'état de victimes de catastrophes de tous ordres et qui ont tellement besoin de l'aide occidentale pour survivre.
À vrai dire, je pense que cette aide est surtout basée sur la pitié et l'idée que l'Afrique ne peut pas s'en sortir toute seule.
Tambisa Moyo est une économiste zambienne. Depuis des années maintenant, elle critique le mode sur lequel fonctionne l'aide au développement. Près de 40% des Africains au sud du Sahara vivent encore aujourd'hui dans une pauvreté extrême, alors que ça fait un demi-siècle maintenant que de l'aide est versée par les pays riches, officiellement pour aider les pays pauvres. Mais comment expliquer alors que les inégalités persistent ?
Sur le long terme, cette aide a influencé la façon de penser des Africains. C'est devenu difficile pour eux de chercher eux-mêmes des solutions à leurs propres problèmes.
To look within themselves for solutions.
James Chikwati aussi est économiste, mais du Kenya. Il affirme que la plupart des Africains en ont assez de la condescendance occidentale. Ils veulent maintenant être considérés comme des partenaires et non plus comme des victimes. George Otwol est assis devant une vieille machine à coudre. Il travaille sur un chemisier de femme. Son atelier est installé à Kibera, un bidonville de Nairobi.
Avant, je ne savais jamais où j'en étais côté finance. Je n'avais pas de plan. Mais grâce à la formation, je tiens ma comptabilité à jour et je sais combien je peux épargner.
George Otwol a suivi une formation en gestion pour micro-entrepreneurs, ce qui lui a permis de mettre un petit peu d'argent de côté pour agrandir un jour son entreprise. Et c'était justement l'objectif de ce séminaire proposé par une ONG chrétienne dirigée par Sven Ziegler.
Notre point de départ, c'est l'initiative des gens, pas seulement d'apporter notre vision occidentale des choses. Nous travaillons avec les gens sur place, d'égal à égal.
C'est un discours qui est communément répandu maintenant dans les projets d'aide au développement ou de coopération, mais qui laisse James Chikwati sceptique. L'économiste y voit une manière détournée d'imposer quand même la prédominance occidentale.
The very concept has a problem because...
Tout le concept de l'aide au développement pose problème parce que les gens confondent affaires et aide. Les pays développés parlent d'aide, mais en fait, ils pensent à l'argent qui leur permet de défendre leurs propres intérêts en Afrique.
Plus de commerce, plus d'investissements, notamment dans les infrastructures, comme ça a été le cas avec la Chine, et moins d'aide. Voilà ce que réclament de nombreux économistes africains, comme le Kenyan Ali Khan Sachu.
L'aide n'a servi à rien, elle n'a pas fait avancer l'Afrique. C'est pourquoi nous réclamons davantage d'échanges commerciaux à la place. Faire des affaires permet de mieux traiter les problèmes de fond.
Allez, rien de tel avant de se quitter que de réécouter une de ces chansons critiquées par la parodie appelant à devenir des radiateurs pour la Norvège qu'on entendait tout à l'heure. Souvenez-vous de We Are The World, une chanson écrite en 1984 par un certain Michael Jackson et enregistrée par toutes les grandes stars américaines de l'époque. There comes a time when we hear a certain call, when the world must come together as one. There are people dying, oh, and it's time to lend a hand to life, the greatest gift of all.
We can't go on pretending day by day that someone.
C'est sur ces notes inoubliables que se termine ce numéro de Droits et Libertés. Pour réécouter ou télécharger cette émission et toutes les précédentes, allez voir sur notre site internet dw.com/français, rubrique nos podcasts. Droits et Libertés, rendez-vous la semaine prochaine, même endroit, même heure.
So you know that someone cares, and their lives will be stronger and free. As God has shown us, by turning stone to bread, so we all must lend a helping hand.